C'était le morceau des Innocents, les îles amnésiques sur Radio Pulse. Vous êtes toujours en direct de la Mystery Machine, en direct de l'abbaye de la Lucerne d'Outre-mer. Et on vient d'accueillir dans la Mystery Machine Virginie Parmentier-Thébault. Bonjour Virginie, comment est-ce que ça va aujourd'hui ?
Eh bien écoutez, ça va très bien, merci.
Alors vous êtes responsable administrative, financière et culturelle à l'abbaye de la Lucerne. Alors avant de parler de votre rôle, j'aimerais commencer par une question peut-être un peu complexe, mais comment vous décririez ce lieu de l'abbaye de la Lucerne et de ses jardins ?
Alors je le décrirais comme un écrin. Avec sa faune, sa flore, son bâti et une renaissance matérielle et spirituelle.
Comment est-ce que vous décrirez l'ambiance dans ce lieu ?
Serein.
Serein,
ouais, oui.
C'est vrai. Bah, du coup, on s'est un petit peu baladé avant l'émission et c'est vrai qu'il y a ce côté assez serein.
Ah oui, pierre, complètement.
Les jardins, ouais. Tout est entretenu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle responsable administratif, financier et culturel de l'abbaye de la Lucerne ?
Eh bien moi je m'occupe particulièrement de la gestion des équipes et du programme pour toute la fondation Abbaye de la Lucerne d'Outre-mer qui est la propriétaire de cette abbaye et qui œuvre à sa renaissance spirituelle et matérielle. Nous l'entretenons, donc il y a effectivement toute la partie de la conservation de ce bâti. Il y a donc aussi la mise en valeur de ce site. Il y a l'accueil du public et ce qui nous tient énormément à cœur, c'est l'accueil. C'est l'accueil et la transmission. On va avoir des ateliers pédagogiques autant sur la taille de pierre, la construction, pour que les gens puissent comprendre complètement cette abbaye et surtout repartir avec cette notion d'abbaye prémontrée, parce que c'est un ordre qui est très peu connu et qui suivait la règle de Saint-Augustin. Et il y a une architecture très précieuse qui est très sobre, dépouillée, un chevet plat, mais avec une verrière complètement ouverte sur la nature et qui est caractéristique de cet ordre.
Et bah d'ailleurs, quand est-ce qu'elle a été construite, cette abbaye ?
Alors, elle a été construite au XIIe siècle, donc en 1161, c'est la pose de la première pierre ici. Elle est fondée en 1143, mais les religieux vont s'installer ici en 1161. Et on aura une architecture très, très rapide. En 40 années, sous un seul abbatiat, elle va être construite. Donc en 1207, l'abbaye, la première abbaye est complètement terminée. Donc nous sommes en Normandie, donc c'est vraiment le style anglo-normand, et j'ajouterais d'ailleurs Sicile et Italie du Sud, car les Normands, et particulièrement ceux du Cotentin, c'est l'épopée des Normands d'Italie.
Mais on a pu aussi, durant cet après-midi, écouter un guide, Brice, qu'on salue, qui nous a parlé de la destruction plusieurs fois de cette église. Alors racontez-nous un petit peu cette histoire autour de la destruction et de la reconstruction de cette église, de cette abbaye, pardon. Abbaye.
Bah oui, parce que c'est l'ensemble. Donc on dit une église abbatiale qui fait partie de cet ensemble. Alors effectivement, la Normandie a un autre visage. C'est celui de la guerre de Cent Ans où l'abbaye va être très fortement ruinée. C'est la plus grande perte en fait. Et donc on aura une période de restauration au XVe siècle. Et ensuite, ça va être les troubles pendant les guerres de religion. Donc une nouvelle renaissance au XVIIe et XVIIIe siècle. On le lit dans la pierre, hein. Il y a des matériaux un petit peu différents, mais ce qui est très touchant, c'est que cette abbaye sera toujours restaurée sur son plan initial. Donc aujourd'hui, c'est un petit joyau d'une architecture prémontrée médiévale encore existante. Il y en a très très peu de témoins en France, mais la Normandie est un très joli berceau, puisque l'abbaye de la Lucerne, elle a une sœur, l'abbaye de Blanchelande dans la Manche, elle a 4 filles, et notamment il y a l'abbaye de Jouémondé près de Bayeux qui est vivante. Vous avez la grande abbaye d'Ardennes près de Caen qui est aujourd'hui le siège de l'IMEC. Vous avez les ruines de l'abbaye de Belle Étoile dans l'Orne, sur le mont Cerisy, et vous avez l'abbaye de Beauport à Paimpol dans les Côtes d'Armor. Et je ne vais pas faire plaisir aux Bretons parce qu'il n'y avait pas de circarie bretonne, donc c'est bien, elle faisait partie de la circarie normande. Voilà.
Et il y a une petite anecdote autour de la construction en 1950. Un présentateur télé a aidé à une reconstruction.
Alors oui, c'est très amusant. C'est en fait, l'abbaye de la Lucerne est vivante jusqu'à la Révolution française. Elle restera dans une même famille au XIXe siècle. Et c'est la petite fille qui va vendre une partie de l'abbaye à l'abbé Marcel Lelégard, qui est un érudit de la Manche, et qui va d'ailleurs écrire sa thèse de l'école des chartes sur l'abbaye de la Lucerne. Et c'est lui qui va entreprendre ce projet très fou de la relever pour la troisième fois de son histoire et de lui redonner vie matérielle et spirituelle. Et en fait, l'abbé Lelégard a participé à un jeu télévisé qu'on appelle la roue tourne au tout début des années 60.
Ça parlera plus ancien.
Hein, oui, ça parle aux plus anciens. Okay. Alors, pour les plus jeunes, c'est pas une roue qu'on tourne pour gagner une somme d'argent. C'était en fait des questions très pointues sur le patrimoine. Et cette émission était animée par un présentateur à l'époque qui était connu, qui s'appelait Guy Lux. Et il n'y avait qu'une seule chaîne à l'époque. C'était en noir et blanc, l'ORTF, vous voyez. Donc, l'impact médiatique a été hallucinant. Il a gagné la roue tourne. Et il a gagné, à l'époque, on gagnait une ondine, une voiture. Et la belle Légard, ben, il s'en fiche de l'ondine, en fait. Donc, il dit à Guy Lux, bah, moi je vais vendre l'ondine aux enchères. Et Guy Lux a été séduit par ce personnage et il a dit, bah, écoutez l'abbé, je vais venir mener les enchères à l'abbaye de la Lucerne. Et ça a été le buzz médiatique en fait à l'époque. Donc c'est drôle et à partir de ce moment-là, l'abbé Le Légard est un peu connu effectivement.
C'est incroyable. Un présentateur télé a aidé.
Oui.
Pas reconstruit, mais à aider à sa reconstruction.
Bien sûr.
Et quand on parle d'abbaye, j'ai été assez surpris par ça, mais en fait pour moi une abbaye c'était juste un édifice religieux alors qu'au final il y a plein de pièces.
Oui.
Typiquement, il y a un monastère, il y a une cantine. Je crois que c'est pas vraiment le nom qu'on donne. Il y a de quoi conserver. En fait, c'est immense.
Alors, c'est grand parce qu'il faut imaginer une communauté, d'accord, qui suit une même règle. C'est la règle de Saint-Augustin. Et à côté, bah, il faut dormir. Il faut manger, il faut vivre, il faut travailler, il faut prier. Donc effectivement, souvent, quand on parle d'une abbaye, les gens pensent à l'église. Mais c'est une église abbatiale, mais il y a les bâtiments conventuels. Donc on a bien un réfectoire.
On oui, a bien. Voilà.
Je crois que c'est ça, la cantine.
La cantoche.
Donc c'est le réfectoire. Vous avez des caves, donc les celliers interbattus, où on conservait la nourriture. Vous aviez des cuisines qui étaient un peu isolées pour éviter la propagation des incendies. Et un dortoir, et un chapitre, une salle capitulaire.
Elle pouvait accueillir combien de personnes
Alors, la communauté,
était, ouais, voilà, combien de personnes pouvaient y loger, enfin,
y vivre,
voilà. C'est ça.
Alors, la communauté de chanoines de la Lucerne, au tout début, hein, on va être à peu près sur 30 chanoines de cœur, donc voilà, qui ont fait les vœux, hein, qui sont vraiment religieux. Mais il y avait également une partie de frères converts. Les frères converts, ils avaient un vœu de moins et ils travaillaient à l'entretien des bâtiments ou dans les champs. Donc, on avait une population d'une soixantaine de personnes à peu près sur place au faste de la communauté. Pendant la Grande Peste, en 1346, on va perdre une grande partie justement de ces frères converts qui vont être plus au contact des animaux, de la paille, etc. Et des puces notamment. Donc, il n'y aura plus de frères converts. Et à partir du XVIIe siècle, on a une population d'une vingtaine de chanoines. Donc, à chaque fois, vous voyez, quand l'abbaye va être restaurée, on va réaménager ces pièces et les réadapter à l'espace et à la communauté qui était en place.
Et j'ai une question par rapport à tout ce savoir historique que vous avez. Comment est-ce que ce savoir en fait est conservé? C'est écrit dans des livres ou alors c'est des connaissances qu'on vous transmet, qu'on se transmet de génération en génération?
Alors, la Fondation Abbaye de la Lucerne, qui est propriétaire, donc a un archiviste, mais il y a ici des étudiants qui ont fait des recherches en histoire de l'art, comme moi. Il y a l'abbé Le Légard, surtout, qui a fait énormément de recherches. Il y a Daniel Ducœur, qui est une archéologue, qui a beaucoup aidé aussi à ces recherches. Donc, où est-ce qu'on est parti? Parce que malheureusement, dans la Manche, les archives ont brûlé à Saint-Lô en 44. Donc c'est une très grosse perte pour nous. Mais comme c'est une abbaye, vous avez des éléments dans des abbayes filles ou dans des abbayes sœurs. Vous avez il y a eu des éléments aussi, ce qu'on appelle le cartulaire, qui était le livre où les religieux, consignaient tout ce qui se passait dans l'abbaye. Il y a une partie du cartulaire qui avait été copiée et dont on en a une trace justement aux archives nationales. Donc c'est dans ces archives-là et dans les archives des abbayes filles, des abbayes sœurs, qu'on peut retrouver des éléments. Et puis il y a deux grands ouvrages aussi qui font source, c'est le Nostria Pia et le Gallia Christiana, où on retrouve des éléments aujourd'hui encore.
La rénovation de cette abbaye ne s'arrête jamais, forcément. Mmh. Aujourd'hui, qui aide à cette rénovation?
Ben c'est la Fondation Abbaye de la Lucerne qui est propriétaire, qui en a la gestion. Et comme l'abbaye est en partie classée ou inscrite, on a le soutien de la DRAC de Normandie qui nous aide beaucoup. Il y a le département de la Manche qui a toujours suivi activement les restaurations. Et dernièrement, on avait eu la mission Berne. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
oui.
Voilà, le loto du patrimoine.
Mmh. Le loto du patrimoine. Ah oui, la mission Berne, Stéphane Berne. Oui.
Ouais, Stéphane Berne. Il y avait des jeux à gratter, non?
Oui, non, tout à fait, c'était le loto qui est consacré lors des Journées européennes du patrimoine. Et nous, on a gagné en 2021 pour le département de la Manche. Okay. Et on a eu une très belle somme, on a eu 150 000 euros. Ah et oui. Ça, ça nous a permis de boucler la restauration des toitures du chevet et du transept. Ça a été un très beau soutien. Et ça, la mission Berne, souvent, bah, c'est vrai, c'était Stéphane Berne, on le voit beaucoup dans les émissions, mais c'est un réel soutien pour les monuments historiques et pour les propriétaires privés comme nous. Et il nous a vraiment aidés. Et c'est avec la fondation, c'est en lien avec la fondation du patrimoine. Et encore dernièrement, on a eu un autre soutien très important, c'est la French Heritage Society, qui elle est en lien avec la demeure historique. Et on a eu une très belle donation. Et l'année prochaine, on va pouvoir restaurer les dernières toitures qui n'ont jamais été restaurées à l'abbaye de la Lucerne, qui sont les anciennes cuisines. Voilà.
Pas trop bien.
Et est-ce que justement un événement comme ce week-end qui attend beaucoup de personnes, donc le festival du village viking, vous permet aussi d'aider à la restauration ou c'est un festival qui est gratuit
Alors effectivement, le festival il est payant, quoi. L'entrée est payante parce qu'elle aide à restaurer l'abbaye de la Lucerne et surtout à pouvoir accueillir, qui est l'un des piliers de la fondation. S'il y a des salariés pour pouvoir entrer, pour pouvoir entretenir les lieux, les tondre, parce qu'il n'y a pas que l'entretien du bâti, il y a aussi l'entretien quotidien. On a besoin de rentrer d'argent. Et en fait, le village viking de la Saint-Olaf, c'est une histoire qui date d'il y a 9 ans, quoi, 10 ans, parce qu'avec la Covid, il n'y en a pas eu, il n'y a pas eu d'édition. Et c'est que des compagnies normandes, des reconstituteurs, qui ont décidé de soutenir le travail de la fondation en venant bénévolement animer et prendre les lieux. Et on a utilisé ce terme de village parce que c'était le plus, celui qui se rapprochait le plus de ce qu'on vivait, nous, sur place, parce qu'ils se mettent tous ensemble. Et donc, il y a un droit d'entrée et ça nous aide effectivement à financer les projets ou à compléter les projets qu'on a.
Et justement, par exemple, ce festival, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous en parler, qu'est-ce qui attendra les visiteurs durant ces 2 jours
Alors là, c'est samedi et dimanche, donc là, on est un petit peu dans l'organisation. On va avoir 115 bénévoles, donc on va avoir toute une partie du village qui représente la vie quotidienne, les combats, les combats à pied ou à cheval, les conférences sur Rollon, avec Simon Tassé, on va avoir Cavaldrir, on va avoir des ébénistes, quoi, on va avoir du travail sur bois, on va avoir des perles de verre, on va avoir excusez-moi.
Je reprends
mon petit pense-bête parce que j'ai les objectifs, mais effectivement, voilà. Donc, c'est la démonstration de sculpture sur bois, aux cornes. On va avoir de la fonte d'objets, la vie quotidienne, de la déambulation, du combat et des jeux à cheval et présentation de l'équipement viking. Il y a même un cirier qui fait de la gravure sur pierre et de vidéos. Campement. Wow. Et donc ces compagnies, on va être à peu près 115 bénévoles. À côté, on a un petit marché avec que des producteurs ou fabricants normands. Mm-hmm. Donc on va avoir la grite avec la poterie, on va avoir Gwen Vannery, on va avoir Ulbuc le Nain pour de la forge avec Asger. On a le détour en détour pour le travail du bois. Et donc les gens vont pouvoir voir tous ces métiers rencontrés. Donc il y a à manger aussi sur place, hein. On est ouvert en continu de 10h à 18h et ils vont pouvoir échanger avec tous ces passionnés d'histoire parce que ce sont des reconstituteurs, donc ils ont tous une connaissance historique très pointue dans leur domaine et c'est ce qui est fascinant. Et généralement les gens viennent le matin, repartent le soir.
Et, ah oui, à ce point-là.
Ah oui, on a des passionnés qui viennent régulièrement et donc l'entrée est un peu majorée effectivement, c'est 10 euros l'entrée. Mais tout va justement à la fondation et à la restauration. Et même le centre spirituel de l'abbaye, donc avec l'abbé Guillaume Antoine et Henri Valençon. Les abbés donnent une messe, la messe de Saint-Olaf, qui va être sonnée et chantée à l'occasion de laquelle on va présenter les lourds, qui sont les instruments à vent d'origine viking et qui ont été offertes à l'abbé Le Légard par la reine du Danemark.
Ceux qui ont aimé la série Viking vont sûrement se régaler.
Oui, oui, et puis on va leur expliquer qu'il n'y a pas de casque à cornes. On va remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme c'est on ça. Dit, et reparler des Vikings, qui est un peuple scandinave très intéressant.
Est-ce que tu peux nous rappeler les dates?
Oui, c'est le 26 et 27 juillet, 26. Donc c'est ce week-end. À l'abbaye de la Lucerne.
Pour tous ceux qui ont envie de retracer leurs origines lointaines, les Normands, ça vient des Vikings.
Voilà, origine scandinave, voilà, tout à fait.
Et bien nous, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Virginie. Merci.